Bonjour, bonjour à tous, bonjour aux fidèles auditeurs de l'émission hebdomadaire Une heure en Palestine sur les ondes de Radio Galère. C'est Sidi qui est à la technique, merci Sidi et merci aussi à toute l'équipe de Radio Galère. L'association Palestine 13 vous propose, si vous voulez avoir des renseignements sur les activités de soutien à la Palestine, ou si vous voulez avoir des informations sur la Palestine, l'association Palestine 13 vous propose de consulter son site mis à jour quotidiennement. www.assopalestine13 en un seul mot.org. Nous participons à la campagne BDS, boycott, désinvestissement, sanctions. Campagne, rappelons-le, qui a été lancée par des Palestiniens en référence au mouvement de boycott de l'Afrique du Sud au moment de l'apartheid. Nous avons été donc pour cela partie prenante de la campagne internationale contre Puma, dont vous avez entendu parler puisque Puma est le sponsor de l'OM et qu'ils étaient aussi le sponsor des équipes de foot israéliennes implantées dans les colonies illégales qui se trouvent en Cisjordanie. Nous venons d'apprendre avec un grand plaisir que Puma se retire des colonies. Mais restons vigilants car malgré ce succès d'une campagne internationale, beaucoup de choses encore restent à faire concernant les colonies israéliennes. Aujourd'hui, la campagne internationale de boycott est dirigée contre les magasins Carrefour qui commercent dans ces mêmes colonies illégales. Sachez qu'en faisant vos courses à Carrefour, vous soutenez indirectement cette colonisation. Informez le personnel de Carrefour, informez vos amis. Si sur notre site, vous trouverez dans la rubrique Agenda les dates, les lieux des actions à venir à Marseille, à Martigues et dans les environs. Tenez-vous informés. Actuellement, l'actualité du drame qui se joue à Gaza fait que chaque semaine, une ou deux manifestations ont lieu à Martigues et dans d'autres villes comme à Arles récemment et à Martigues régulièrement. Faites-le le savoir et rejoignez-nous. Il est particulièrement important de montrer à nos dirigeants que nous ne pouvons accepter qu'ils cautionnent, qu'ils soient complices de ce génocide que l'on voit se dérouler sous nos yeux en temps réel. De même, le traitement médiatique de ce drame est favorable à Israël. Ni les termes d'apartheid, ni les termes de nettoyage ethnique, ni le terme de génocide ne sont jamais repris par les médias, que moi j'appelle les médias de grand chemin. Gaza donne pourtant au monde entier une leçon de courage et de dignité. Nous dédions cette émission aujourd'hui au journaliste assassiné depuis le 7 octobre à Gaza. 87 journalistes assassinés, hommes et femmes. Ce chiffre date de 2 ou 3 jours, en espérant qu'il n'y en ait pas eu depuis. Voilà. Un collectif s'est d'ailleurs créé à Paris en soutien aux journalistes de Gaza et de Cisjordanie. Ce collectif s'appelle Reporters Solidaires et vous pouvez les suivre sur Instagram. Et puisqu'il faut quand même bien parler chiffres, nous vous rappelons que le bilan est très, très, très lourd sur Gaza.
Environ 25 000 morts, dont 8 000 enfants. 60 000 blessés, soignés dans des conditions extrêmement difficiles, puisque plus de 22 hôpitaux sont détruits ou inopérants, que 46 centres de soins primaires ont été détruits. 1,7 million de personnes forcées de quitter les maisons ou les lieux où ils s'étaient réfugiés. Des familles entières rayées définitivement de l'état civil. À cela, on rajoute des milliers de victimes manquant à l'appel, ensevelies sous les décombres. Tous ces chiffres sont documentés par l'Organisation des Nations Unies pour les Affaires Humanitaires.
Alors, cette émission, évidemment, se déroule dans le cadre de cette attaque de Gaza et de ce génocide hein, aux yeux du monde entier. Donc, nous n'allons pas refaire l'histoire complète de pourquoi nous en sommes arrivés là, parce que tout est très documenté, des livres sont parus et des centaines d'articles sont parus depuis le 7 octobre. Et donc nous allons nous axer un peu sur des témoignages. Et pour commencer, un témoignage et un poème concernant Refat Al-Harir. Refat Al-Harir est un professeur d'université assassiné le 6 décembre à Gaza par une frappe dite, on va dire entre guillemets, chirurgicale, c'est-à-dire ces frappes dont les Israéliens ont le secret, frappe qui consiste à viser parfois une personne, parfois un petit groupe de personnes, et là qui a consisté à viser un appartement précis dans un immeuble sans toucher au reste de l'immeuble. L'immeuble est resté intact et dans l'appartement, une trentaine de morts. Voilà, puisque les gens sont obligés de se mettre à un grand nombre dans des petites places, puisque l'espace qui leur est réservé est de plus en plus réduit. Voilà. Refat Al-Harir avait reçu de nombreuses menaces bien avant le 7 octobre et des messages haineux venant de comptes israéliens sur les réseaux sociaux. Déjà en 2014, lors d'une attaque particulièrement meurtrière appelée par les Israéliens « bordure protectrice », sa maison avait été bombardée et ce qui avait entraîné la mort de plus de 30 membres de sa famille et celle de sa femme. On était en 2014. Refat Al-Harir était enseignant de littérature anglaise à l'Université islamique de Gaza. La seule mention du mot islamique condamnait cette université à la destruction. Elle a été l'objet d'attaques régulières de la part des Israéliens et elle a été entièrement détruite par d'incessants bombardements depuis le 11 octobre. Mais bon, c'est que le parachèvement de cette volonté de destruction de cette université d'Israël. D'ailleurs, je voudrais rajouter, ce qui n'a rien à voir avec cette université, mais que la plupart des bibliothèques, donc qui sont des lieux de savoir, d'échange et de partage, la plupart des bibliothèques ont été détruites à Gaza. J'avais eu la chance de visiter la totalité des bibliothèques de Gaza en 2005. Et ça fait vraiment mal au cœur de penser que toutes ces bibliothèques ne sont maintenant que des tas de ruines. Pour revenir à Refat Al-Harir, il était également poète, traducteur. Il avait fondé une association qui s'appelait « Nous ne sommes pas des chiffres » qui réunissait des écrivains du monde entier et des jeunes de Gaza. Il incitait les jeunes de Gaza à écrire, il les encadrait et il a aussi dirigé deux recueils de témoignages et d'écrits de jeunes auteurs et jeunes autrices gazaouis. Et ces recueils sont parus en langue anglaise. Voilà. On l'aura compris à travers ces quelques mots que Rifaat Al-Harir était un acteur culturel gazaoui de premier plan. C'est Statis Kouvelakis qui le dit dans un hommage qu'il lui a rendu le 13 décembre. C'était donc, que dit Statis ? Alors Statis Kouvelakis, c'est un philosophe grec qui a beaucoup vécu à Londres et enseigné à Londres, qui actuellement vit à Paris. Et donc Statis dit, on l'aura compris, Rifaat Al-Harir était un acteur culturel gazaoui de premier plan, un intellectuel accompli, profondément lié à son peuple et par là même une boussole essentielle de sa résistance et de son combat. C'est pourquoi Israël a décidé de l'abattre, comme il l'a toujours fait, de tous les cadres et intellectuels, poètes qu'il pouvait assassiner. Quelques jours avant son assassinat, Rifaat Al-Harir avait écrit un poème. Il se savait menacé, il avait déjà échappé à plusieurs tentatives d'assassinat. Ce poème que nous allons vous lire a été traduit depuis dans des dizaines de langues, du japonais au swahili, et il a été partagé par des milliers et milliers d'internautes partout dans le monde.
Si je dois mourir, il faut que tu vives pour raconter mon histoire, pour vendre mes affaires, acheter un bout de tissu et quelques ficelles. Fais le blanc et qu'il y ait une longue traîne. Qu'ainsi un enfant, quelque part dans Gaza, tandis qu'il lèvera les yeux par-dessus le ciel, attendant son père parti dans un éclat. Et il n'a dit adieu à personne, pas même à sa chair, pas même à lui-même. Puisse voir le cerf-volant, mon cerf-volant que tu auras fait dans la hauteur au-dessus de sa tête, qu'il pense un instant qu'un ange est là, venu lui apporter l'amour. Si je dois mourir, qu'il n'en ait de l'espoir, qu'il en reste une histoire.
Il avait d'ailleurs écrit un autre texte très 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 important le 15 février 2015. Ce texte qui s'intitule « Il n'y a pas de poème de destruction massive », vous pourrez le trouver sur le site de Palestine 13. Il résume bien le travail de Rifaat Al-Harir auprès de ses étudiants et de ses étudiantes. Il était un passionné de littérature anglaise, qu'il enseignait d'ailleurs, et il a beaucoup travaillé avec ses étudiants sur les œuvres de William Shakespeare et de Charles Dickens, qui étaient deux auteurs anglais auxquels il vouait un véritable culte.
Thank you.
Ce chant que vous venez d'entendre est un chant traditionnel palestinien très, très connu par les Palestiniens, bien sûr, hein, qui a été écrit en 1936 par un compositeur anonyme. C'est une chanson d'amour assez triste qui est extraite d'un CD de l'ensemble musical de Gaza, qui est joué donc par cet ensemble musical de Gaza. Voilà, après donc le témoignage concernant Refat, un autre témoignage douloureux de l'histoire de Loubna Aliane, une enfant d'une douzaine d'années, jeune violoniste à Gaza, et assassinée le 21 novembre. Mahmoud Abou Warda est un compositeur et guitariste palestinien qui vit désormais en Turquie, où il est cofondateur et directeur académique du Conservatoire interculturel de musique d'Istanbul et qui enseigne au Rumeli International College. Quand il vivait à Gaza, il était professeur de composition, de guitare, d'histoire de la musique, de théorie musicale au Conservatoire national de musique. Voilà, il a écrit un très joli texte concernant Loubna. Donc ce texte est daté du 13 décembre.
Par une journée tranquille, au milieu des quelques jours sereins à Gaza, j'ai rencontré cette fille, calme, aux yeux pleins de détermination et de passion. Loubna Aliane se préparait pour une audition pour une bourse de musique au Conservatoire national de musique Édouard Saïd, où j'ai travaillé comme professeur de guitare et superviseur académique. Je n'oublierai jamais l'enthousiasme et la passion qui ont rempli les yeux de Loubna. Elle m'a dit avec une forte volonté qu'elle voulait étudier le violon, même si le cours de violon était complet. Ma question était : pourquoi le violon ? Elle a répondu : j'aime passionnément le violon et je veux devenir l'une des meilleures violonistes du monde. C'est mon rêve. Quand j'ai vu sa détermination à apprendre l'instrument et son profond amour pour celui-ci et la musique, j'ai été poussée à faire une exception et à l'accepter dans la classe malgré les opportunités limitées. Loubna a brillamment réussi le test d'aptitude et est devenue un ajout précieux à la classe. Pour nous tous au conservatoire, c'était gratifiant d'assister au progrès constant de Loubna. Nous avons tous aimé la diligence, l'enthousiasme et l'esprit joyeux de Loubna. Nous l'avons aidée à réaliser son grand rêve en organisant des cours de violon avec des professeurs et des musiciens extérieurs à la Palestine, comme Tom Suarez, ainsi que par l'intermédiaire de Palm Music à Londres. En tant que professeur de solfège et d'histoire de la musique classique, je n'oublierai pas la passion de Loubna lors de ses cours. En tant que compositrice, je l'ai toujours encouragée à utiliser ce qu'elle a appris en improvisation et à essayer de composer des phrases musicales. Elle a montré un vif intérêt pour la composition musicale, démontrant une attention méticuleuse à chaque détail d'une pièce musicale. Le 7 février 2022 était mon dernier jour à Gaza en raison de la guerre du mois de mai de l'année précédente. Dans un moment d'adieu difficile avec Loubna, je l'ai encouragée à continuer d'apprendre et de poursuivre son rêve. Je préserverai la mémoire de Loubna de la meilleure façon que je connaisse, en écrivant de la musique en sa mémoire, en mémoire de son rêve, en mémoire de sa passion, en mémoire de l'avenir qui lui a été volé. Je te promets, Loubna, de rester fidèle à tes rêves et de contribuer à partager ton histoire avec le monde.
Loubna a été assassinée le matin du 21 novembre 23 dans le bombardement de la maison de sa tante dans la ville de Al-Nusayrat, au sud de la ville de Gaza, bien que l'armée israélienne avait déclaré que Al-Nusayrat était une zone de sécurité. 50 personnes ont disparu à cette occasion, rayées à jamais du registre de l'état civil.
Oh.
Toujours par le même ensemble musical de Gaza, donc un autre chant traditionnel palestinien, encore très connu par les Palestiniens, mais cette fois écrit en 1950, qui est une chanson d'un amour heureux. Voilà. Alors, nos pensées sont évidemment entièrement tournées vers Gaza, mais n'oublions pas la Cisjordanie. La Cisjordanie, où des raids et des incursions dans des villes ou des camps de réfugiés ont lieu chaque octobre et se sont multipliés, évidemment, depuis le 7 octobre, ont lieu chaque jour. Donc, on avoisine les 300 morts, des milliers de blessés, près de 4000, des centaines d'arrestations ou d'enlèvements, de kidnapping dont l'armée israélienne a le secret. Ces raids quasi quotidiens durent en fait depuis des années. Tous les camps de réfugiés en sont la cible, et particulièrement celui de Jénine, où j'ai pu séjourner pour contribuer à y faire des activités culturelles avec des enfants, il y a quelques années en arrière. Depuis 2 mois maintenant, 16 raids de l'armée israélienne. Le dernier ayant été le plus meurtrier, le dernier date du 12, 13, 14 décembre. Donc vous voyez, quelques jours. 3 hôpitaux de la ville de Jénine, contigus au camp, ont été assiégés pendant plusieurs jours. L'armée israélienne a entravé le chemin des secouristes, comme toujours et comme partout, et elle a abattu un adolescent qui n'était absolument ni armé ni menaçant dans l'enceinte de l'hôpital. Lors d'un raid sur un de ces hôpitaux, les soldats israéliens ont obligé l'ensemble des patients de l'hôpital à se déshabiller et les a alignés sans autre but que de les humilier. Là réside un passe-temps favori de ces soldats. Ce passe-temps favori, c'est l'humiliation. Et j'aurais tant et tant d'anecdotes à vous raconter que j'ai ramené de mes nombreux séjours en Palestine depuis 2005. Voilà, jusqu'à obliger à la frontière entre la Jordanie et la Palestine, un endroit que beaucoup connaissent, ceux qui ont pu voyager là-bas, obliger une religieuse à se dénuder totalement. Voilà, l'humiliation. Ces merveilleux soldats, entre guillemets, hein, merveilleux soldats de l'armée la plus morale du monde, comme dit la propagande de l'État israélien, ont aussi, à Jénine, profané des lieux de culte, c'est-à-dire des mosquées, les taguant avec des slogans comme « on est venu manger du houmous » ou bien « bonjour de Gaza » ou diffusant à la place du muezzin des chants en hébreu. Et bien sûr, le tout en se filmant et en diffusant sur les réseaux sociaux. Et non seulement ils ont attaqué le camp, mais d'autres quartiers de la ville de Jénine, alors que leur cible favorite, ça a quand même toujours été le camp. Les derniers jours, les 3 derniers jours de raid, donc 12, 13, 14 décembre, ont fait 12 morts, 500 arrestations, des kidnappings en plein jour ou en pleine nuit, dont ceux d'Ahmed Tobazi, directeur artistique du théâtre du Freedom Theater de Jenin, Théâtre de la Liberté, de Mustapha Cheta, directeur général du même théâtre. Ce théâtre est très très connu. Il a son siège dans le camp de réfugiés. Ce théâtre a été créé en 2006. Il tient une place précieuse comme lieu d'éveil et de créativité dans la vie du camp. Cette fois-ci, les bureaux du théâtre ont été éventrés par un bulldozer. Ensuite, les soldats sont rentrés, ont tiré et ils ont absolument tout détruit. Les attaques contre ce théâtre sont récurrentes. Hein. En septembre 2022, donc l'année dernière, le président du conseil d'administration du théâtre, Bilal al-Saadi, avait été arrêté. Il est depuis en détention administrative, c'est-à-dire emprisonné pour 6 mois, renouvelable ad vitam aeternam, sans inculpation, ni jugement. On peut soutenir ce théâtre à travers l'association des Amis du Théâtre de la Liberté de Jenin. Vous trouverez sur leur site et leur page Facebook toutes les informations pour les soutenir et être au courant de leurs activités et des tournées que faisait ce théâtre en France de temps en temps. Voilà, nous allons terminer cette heure en vous faisant écouter beaucoup à la fois de musique et de poèmes de Mahmoud Darwish. Mais avant, nous voudrions vous donner lecture d'un article très intéressant qui s'intitule « Gaza, le désastre et la honte » du 6 décembre par Denis Siffer, journaliste et directeur du journal Politis, et que vous pourrez également retrouver sur le site de Palestine 13.
Gaza, le désastre et la honte. Il n'y a plus grand monde pour croire à une guerre contre le Hamas. C'est bien la guerre à un peuple que mène l'armée israélienne. Et le prix à payer à l'avenir risque d'être lourd. Il se joue ces jours-ci à Gaza beaucoup plus que le sort de cette enclave palestinienne maudite. On ne dira pas que c'est le sort du monde. Gaza n'est pas le Sarajevo de 1914, quand une simple balle atteignant l'archiduc François Ferdinand, héritier de l'Empire austro-hongrois, embrasa l'Europe entière. On me dira que les États-Unis, l'Europe et la France avaient déjà été sérieusement mis à mal par les guerres coloniales et qu'ils sont trop souvent des armes idéologiques de conquête et de domination. Mais l'époque récente leur avait redonné un certain lustre. L'engagement occidental aux côtés de l'Ukraine contre l'invasion russe avait remis les principes du bon côté de l'histoire. Avec Gaza et le silence des grandes capitales, tout s'effondre de nouveau. Nous voilà, nous autres, si on élève la voix du côté de Poutine et d'Erdogan. Horrible piège. Car il n'y a plus grand monde pour croire à la guerre contre le Hamas. Celle-ci pouvait avoir les apparences de la légitime défense au lendemain de l'attaque terroriste du 7 octobre. Mais que dire 15 000 morts plus tard? Que dire quand des tonnes de bombes s'abattent sur Shajaya, un quartier de Gaza, pour avoir la peau d'un seul militant du Hamas? C'est bien la guerre à un peuple, aussi innocent que les otages et les victimes du 7 octobre, que mène l'armée israélienne. Et avec quel cynisme! Se prévaloir d'une éthique de la guerre quand on envoie des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, exilés perpétuels, dans des réduits toujours plus étroits, pour finir par les bombarder tout de même et ajouter au crime un sinistre ricanement. Il s'agit, en faisant durer la guerre, de retarder le moment où il aura à rendre des comptes à son peuple et à répondre à des accusations de corruption devant la justice. Il s'agit surtout de satisfaire ses amis suprémacistes juifs qui exploitent ce moment pour étendre leur mainmise sur la Cisjordanie. Qu'ils financent le Hamas ou prétendent l'éradiquer, le chef du gouvernement israélien poursuit toujours le même but: éloigner toute perspective de solution politique. Sans compter que les quelques 140 otages encore retenus dans l'enclave risquent d'être sacrifiés sans état d'âme. Mais le prix à payer risque d'être lourd. Il se paiera en haine de l'Occident, en affaiblissant les deux causes justes comme la cause ukrainienne, en discrédit de la parole politique. Il se paiera en antisémitisme, en vengeance d'esprits tourmentés frappant des innocents, en délitement des règles internationales. Il se paiera en renforcement du Hamas ou de ses avatars. À cet égard, les mots les plus justes sont ceux de la féministe palestinienne Asma Al-Ghul, adversaire de toujours du mouvement fondamentaliste. Cette guerre brutale ne nous laisse d'autre choix que de tolérer le Hamas. Terrible mais irréfutable constat. Quand toute une population comprend, au prix de son sang, que ce n'est pas le Hamas qui est la cible d'Israël, mais la Palestine. Certes, les États-Unis et la France ne sont pas tout à fait muets. Ils invitent Netanyahou à la retenue. Mais leur timidité est affligeante. Et leur résignation apparaît comme la forme la plus cynique de la complicité. Joe Biden avait pourtant judicieusement conseillé au Premier ministre israélien de ne pas commettre les mêmes erreurs que l'Amérique en Irak quand son arrogance avait fini par engendrer Daesh. Erreur, le mot était déjà léger. Il est insupportable aujourd'hui. C'était un texte de Denis Siffer.
Au dernier soir, sur cette terre, nous détachons nos jours de nos arbrisseaux et comptons les côtes que nous emporterons et celles que nous laisserons. Disons adieu à rien et ne trouvons pas le temps pour notre fin. Tout demeure en l'état, le lieu renouvelle nos rêves et ses visiteurs. Soudain, nous ne sommes plus capables d'ironie. Et un temps ancien qui remet à ce temps nouveau les clés de nos pas. Entrez dans nos maisons, ô conquérants, et buvez notre vin sur le mode simple de notre moacha. Car nous sommes la nuit à sa minuit et nulle aube portée par un cavalier venu du dernier appel à la prière. Notre thé est vert et chaud, buvez-le. Nos pistaches sont fraîches, mangez-les. Et les lits sont verts, en bois de cèdre. Cédez au sommeil après ce grand siège et dormez sur le duvet de nos rêves. Les draps sont mis, les parfums déposés aux portes et les miroirs nombreux. Entrez-y pour que nous en sortions jusqu'au dernier. Et sous peu, nous chercherons ce que fut notre histoire autour de la vôtre, dans les contrées lointaines. Et à la fin, nous nous demanderons l'Andalousie fut-elle là ou là-bas. Sur la terre ou dans le poème.
Voilà, ce chant un peu inhabituel hein, est extrait d'un CD qui s'intitule 11 astres sur l'épilogue andalou, Mahmoud Darwish. Le chant est chanté par quelqu'un qui s'appelle Dominique De Vals et accompagné, on va dire, qui fait partie d'une compagnie, la mini-compagnie La Carrière. La composition musicale est de Philippe La Carrière. Ça a été enregistré en 2005, qui, je pense, est la dernière fois peut-être que Mahmoud Darwish est venu en France et à Aix-en-Provence, entre autres. Voilà, donc ce CD est entièrement consacré à 11 poèmes de Mahmoud Darwish. Voilà, nous allons, avant de nous quitter bientôt, nous allons vous lire encore un poème ou deux de Mahmoud Darwish. Donc le premier, c'est « Nous souffrons d'un mal incurable ».
Nous souffrons d'un mal incurable qui s'appelle l'espoir. Espoir de libération et d'indépendance. Espoir d'une vie normale où nous ne serons ni héros ni victimes. Espoir de voir nos enfants aller sans danger à l'école. Espoir pour une femme enceinte de donner naissance à un bébé vivant, dans un hôpital, et pas à un enfant mort devant un poste de contrôle militaire. Espoir que nos poètes verront la beauté de la couleur rouge dans les roses plutôt que dans le sang. Espoir que cette terre retrouvera son nom original, terre d'amour et de paix. Merci pour porter avec nous le fardeau de cet espoir. Mahmoud Darwish.
Voilà, restons à l'écoute de la souffrance du peuple de Gaza et du peuple de Cisjordanie. Restons mobilisés contre la barbarie israélienne. Restez à l'écoute de cette heure consacrée à la Palestine Et avant de nous quitter sur quelques notes des frères Joubran, un dernier poème de Mahmoud Darwish.
La terre ne nous contient plus. La terre ne nous contient plus. Elle nous entasse dans le dernier passage. Nous ôtons nos membres pour passer. La terre nous pressure. Que ne sommes-nous son blé pour mourir et vivre? Quelle n'est-elle notre mère pour nous avoir en pitié? Que ne sommes-nous image de rocher que notre rêve porterait? Tels des miroirs. Nous avons vu les visages de ceux que le dernier d'entre nous tuera dans l'ultime défense de l'âme. Nous avons pleuré la fête de leurs enfants. Et nous avons vu les visages de ceux qui jetteront nos enfants par les fenêtres de ce dernier réduit. Miroir que polira notre étoile. Où irons-nous après les dernières frontières? Où s'envoleront les oiseaux après? Le dernier ciel? Nous dormirons les plantes quand l'air sera épuisé? Nous écrirons nos noms avec la vapeur, teintée de carmin, toucherons la poignée au champ pour que notre chair l'achève. Ici, nous mourrons. Ici, dans le dernier passage. Où, ici, notre sang plantera ses oliviers. C'est un texte tiré du livre « Plus rares sont les roses » de Mahmoud Darwish. Thank you.
Thank you.